Je voulais qu'on bah, simplement déjà qu'on parle de l'exposition, comment est
Oui, par
l'idée un
exemple.
petit peu de l'idée de cette expo des Nuits de Salammbô.
Alors, monsieur Drouillet, remettez vos idées en place. Bah, écoute, si tu veux, comme j'ai donc fait ce putain d'album, enfin non, pas ce putain d'album, c'est trois albums sur Salammbô de Flaubert, j'ai eu envie de faire ce qu'on appelle une fidélisation. D'abord parce que c'est un roman d'une modernité absolument totale. Je suis très content d'avoir entendu pendant les 10 dernières années que des tas de gamins ou de lecteurs de BD qui n'avaient jamais lu Flaubert se sont mis à le lire grâce à moi. C'est quand même pas mal. Donc ça évite la phrase sempiternelle des crétins d'il y a 20 ans. La bande dessinée est une sous-culture, à côté de la littérature, c'est de la merde. Donc ça, c'est déjà très bien de remettre les choses en place. J'ai créé une collection de bijoux aussi qui sera à l'expo, que j'ai appelée Suite à Salammbô également. Et quelque part, je trouve assez beau, bien que je travaille sur d'autres projets, d'autres choses, d'avoir une espèce de filiation, d'amitié avec mon ami Gustave. Et j'avais quelque part, je m'étais dit, j'ai fait ces trois albums, et il manque quelque chose encore, et donc je me suis attaqué au personnage de Salammbô. Bien entendu, je l'ai transformé par rapport au roman de Flaubert, parce que dans le Flaubert, c'est une très jolie femme, mais c'est une prêtresse, et on l'oblige à adorer Tanit, la lune et le serpent. Et puis pour la première fois, elle rencontre un gros voyou qui s'appelle Mato, que j'ai transposé en Sloane, et il se passe les choses que nous savons dans le roman. Et puis je me suis dit, bon, c'est bien, je vais faire un truc sur le mythe de la femme féminin. Alors évidemment, j'ai fait un peu à la manière ancestrale de nos ancêtres des cavernes, ou comme les Inuits, la totémisation, je couchais tard, de la femme, c'est-à-dire des gros seins, des gros ventres, bah, tous les fantasmes sexuels d'un crétin masculin jusqu'à maintenant. Et en même temps, une expo à thème. Donc j'ai fait 42 pièces. Il va y avoir le portfolio qui est très beau que Léna édite et le bouquin sortira lui à la rentrée. Et j'ai fait un voyage à travers le corps féminin. Et donc 42, 43 pièces, un exercice de style. Et puis aussi, on m'a souvent reproché que je ne faisais que dans mes albums que des univers de mecs, ce qui n'est pas faux, parce que j'étais sûrement comblé côté féminin et je n'avais pas besoin de transmettre dans mes livres. Je ne veux pas dire par là que je suis moins comblé côté féminin aujourd'hui. C'est pour ça que, quoique, il serait intéressant d'y réfléchir. Et ce n'est pas le but de l'interview. Donc, exercice de style, 40 nues. Thème couleur bleue, parce que j'ai commencé à peindre des femmes bleues dans les années 64, à mes débuts. Ensuite, il y a eu Saga de Xam. Les femmes bleues dans le monde de la science-fiction, c'est un peu comme les taxis volants, c'est la tarte à la crème. Ça dure depuis 1890, avec Robida et compagnie. Bilal aussi avait fait. Non, lui, c'était les perruques bleues et les maquillages bleus. Donc, nous aimons bien les femmes bleues, nous tous. Pourquoi, je ne sais pas. On est daltonien ou j'en sais rien.
Avec
Donc,
Avatar, c'est...
Avatar qui arrive maintenant. Mon galeriste me dit, mais c'est merveilleux, tu es dans la mouvance. Je lui ai dit, pauvre con, ça fait 45 ans que je suis dans la mouvance. Pauvre con, c'est un ami. Il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Et donc, c'est de l'acrylique sur papier. Et j'ai pris mon pied, je me suis vraiment éclaté. Au départ, j'en avais fait une ou deux pour mon ami Benjamin de Rothschild, qui m'avait demandé ça, je l'avais fait. Et c'est toujours comme ça que ça se passe. Quand j'ai fait l'exposition chez Jean-Baptiste Barbier, BD Artiste, il y a 2 ans, sur la série des Noirs et Blancs, j'avais déjà attaqué plusieurs pièces avant. Et puis, d'une fois, soit c'est des commandes, et puis tout d'un coup, au bout de 4 ou 5 pièces qui te tombent dessus, à un moment donné, tu te dis, mais pourquoi pas? Pourquoi je ne ferais pas une suite, une véritable suite? C'est pour ça que l'expo, donc Métal Machin, le premier, je ne sais plus comment ça s'appelait, Métal Esquisse, est né. Et l'expo des femmes de Salammbô, les nues de Salammbô, hommage à Flaubert et à Salammbô, c'est né comme ça. Tout d'un coup, dans la thématique du boulot, tu sors une pièce ou deux ou trois sur des commandes, et après tu te dis, mais pourquoi pas développer ça? Donc voilà, c'est comme ça que c'est né. Donc c'est 2 ans de boulot. J'aurais pu faire à moins parce que j'ai eu d'autres trucs sur le dos, mais j'aime bien et je vais continuer à fidéliser sur Flaubert parce qu'il y a ce lien entre le fantastique. Bon, là, on n'est pas dans la science-fiction, on est plutôt dans l'heroic fantasy parce que Salammbô, c'est un bouquin d'heroic fantasy, il faut être honnête et il faut être clair. Et donc, j'aime bien ce mariage entre le 19e, qui était un 19e d'écriture progressiste, et maintenant, notre monde actuel, donc c'est totalement d'actualité. Que je sache, la femme est toujours d'actualité, en dehors de la burqa et tout le bordel. Bon, mais ça, c'est une autre affaire. Ça, je ne crois pas exposer en Irak ou je ne sais pas où, je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc voilà en gros la genèse de la chose. Quoi.
Comment vous avez travaillé? Vous avez pris le livre?
Eh bien, non. Je suis parti sur le fantasme féminin. Et c'est un jeu de poker que j'ai fait parce que je suis tellement imprégné du bouquin. Et pour le livre nouveau, donc le portfolio et le livre, j'ai repris les textes de Flaubert après pour les plaquer sur mes fantasmes. Et je me suis aperçu que ça collait parfaitement bien. Donc je suis là-dedans comme dans une paire de pantoufles. Bon, je ne porte pas de pantoufles. Mais il y avait un travail un peu inconscient, un petit peu attaché. Et ça s'est très bien raccordé. Donc j'ai pris tous les extraits concernant Salammbô qui sont en contrepoint en face de chaque page de droite, la peinture, page de gauche, le texte. Et à la fin, je me suis retrouvé en panne parce que là, j'avais plus de descriptif de Salammbô. Et je me suis dit, ben, je vais conclure comme dans le livre, ben, je vais raconter sa mort. Alors la pauvre, à la fin, elle meurt. Ben, les femmes comme les autres, les hommes, un jour ou l'autre, ils meurent. Hein. Il paraît, vous êtes au courant de ça, non?
Bah,
on va mourir.
J'ai appris ça mental, récemment.
Oui, moi, j'ai signé un contrat, mais j'ai oublié de lire la tagline en bas. J'ai toujours rêvé de rencontrer Dracula ou le diable pour signer un pacte.
Ouais.
L'éternité, c'est fabuleux.
Ouais.
Mais moi, c'est comme le personnage de Sloane. Sloane a 300 ans sur sa carte, son passeport. Il a 300 ans. Et l'éternité, ça doit être génial, mais comme disait notre ami Woody Allen, l'éternité, c'est surtout chiant vers la fin. Tu vois.
Ouais, c'est
et
ça, ouais.
C'est vrai que mais c'est un vieux rêve.
Parce que Sloane, il est plutôt ado dans son. Dans
non.
sa manière d'aborder les choses, enfin, il est...
Il y a un truc que j'ai jamais fait, que Giraud a fait pour Blueberry, c'est l'enfance de Sloane. Mmh. On me l'a souvent demandé. C'est dans le guide où je donne quelques mots sur ses origines, fils d'une prostituée, d'un voleur des bas-quartiers. Ça, j'aimerais bien. Mais dans ma thématique, ma cosmologie comme Star Wars, Shan l'Impérator, c'est Sloane, vieux de 300 ans. Mmh. C'est le futur sur lequel il ne veut pas aller. Putain, c'est compliqué. Bon, très bien. Donc voilà. Si tu veux, c'est ça. Mais Sloane, effectivement, est un bioman entièrement refait de partout, comme il se passe aujourd'hui avec la chirurgie et tout le bordel. Et en vérité, il a 300 ans. Il a 300 ans. Mais c'est le paradoxe temporel. Quoi. Donc voilà.
Alors, par contre, par rapport à Salammbô, initialement, les trois albums, c'était prévu les trois albums ou c'est devenu trois albums parce que dans un, ça ne rentrait pas, en fait.
C'est les deux, mon général. Parce qu'au départ, je savais que je ne m'en sortirais pas avec un, c'était clair. Et en vérité, je me suis aperçu que j'aurais dû en faire quatre. Parce que, par exemple, j'ai massacré, si j'ose dire, le terme est tout à fait... le défilé de la hache, qui est un moment prodigieux, où les mecs, j'ai fait une double page.
Oui, bah oui.
Et ça méritait un épisode entier, avec les lions qui viennent bouffer les mecs. Enfin, c'est un délire total, quoi. Et là, je me suis dit, mais à la fois, j'avais une usure. J'ai quand même passé 7 ou 8 ans de ma vie avec ces trois albums. Parce que moi, je travaille lentement, puis aussi, j'ai d'autres boulots à côté. Alors, je ne suis pas assidu, on me le reproche assez dans le monde de la bande dessinée. Et à la fin, j'avais une forme d'usure. Et quand j'ai terminé le troisième, j'étais comme une nana qui accouche d'un bébé et j'étais en phénomène de décompensation. J'ai passé 2 ou 3 mois où j'avais plus ma planche de Salammbô en face de moi. Ça fait un drôle d'effet hein, quand on a vécu. Et en même temps, je me suis dit, je suis honnête, je me suis dit, putain, j'en ai ras-le-bol, faut que j'arrête. Et après, je me suis dit, mais il y a un manque. Alors après, je me suis dit, si je faisais un portfolio avec les séquences qui manquent, et j'étais emporté vers d'autres travaux comme nous tous. Donc quelque part, il est vrai que ces nuits de Salammbô, c'est encore un appendice pas d'échec, mais de repentir par rapport aux 3 livres. Et j'aurais dû en faire 4 en vérité, voire même si c'était pas 5. C'est tellement énorme, c'est tellement foisonnant ce livre que c'est sans fin quoi. Donc voilà. Ce qui est bien pour moi, là, on parle matériel. Oui, c'est que l'album, la trilogie, parce que Glénat a racheté tout le catalogue Albin, ça vous le savez. Trouver des bouquins de Druyer aujourd'hui dans les bacs, ben c'est du domaine de l'exploration, hein, parce qu'ils ne rééditent pas. Ils attendent la nouveauté de Delirious 2 que je vais terminer fin d'année pour tout remettre en place. Et l'omnibus, le 3 volumes en 1 de Salammbô, est un bouquin sur lequel, autant chez Albin et chez Glénat qui le réédite actuellement, il sort à la rentrée, il n'y a pas de retour. J'ai réussi, étonnant, une fusion entre cet auteur, et la maquette est belle, le 3 volumes en 1 est magnifique, et ça se vend régulièrement, c'est une rente, merci Gustave, c'est étonnant. Donc ça c'est très bien, et je me suis attaqué à un gros morceau. Je le dis souvent aussi, je suis collectionneur, parce que je suis bibliophile entre autres, j'ai plein de singes sur le dos, et je me suis mis à collectionner depuis 20 ans toutes les éditions anciennes des illustrateurs de Salammbô, les Roches Grosses, il y en a eu des paquets et tout. Et je me suis aperçu que la plupart de ces grands artistes du 19e et du 20e, parce que c'était un succès énorme, Salammbô, il y a eu de la sculpture, il y a eu des pièces de théâtre, il y a eu un opéra, il y a eu de la peinture, c'est fabuleux. Quand ils s'attaquaient à ça, les mecs se disaient, oulala, Et en général, il y avait le sempiternel dessin de Madame à poil en train d'adorer la lune, le petit serpent en bas, et les scènes de bataille, c'était un gros plan avec deux mecs qui se castagnent, et derrière, dans le flou. Moi, j'ai baissé mon pantalon et j'y suis vraiment allé. Les 30 000 mecs qui se tapent sur la gueule, les combats frénétiques, je les ai vraiment dessinés en pleine page. J'ai malheureusement plus ces originaux, parce que bon, ça c'est autre chose, je les ai vendus, ça fait partie de ma vie et de mon travail. Donc j'ai vraiment... 1000 paquets, je l'ai fait avec sincérité, avec force et volonté. Alors que beaucoup d'illustrateurs, bon, à la commande, ben, les mecs, ils se déballonnent. Attends, au secours.
Tu vois. Mais justement, le projet, l'éditeur, il était chaud comment
Les trois volumes.
Ouais, ouais, donc, ouais.
Mais au départ,
c'était... Genre, j'attaque Salambo, je m'appelle Druyet, j'ai déjà fait La Nuit, enfin, des trucs complètement délirants. Je m'attaque à Salambo, l'éditeur, il en dit quoi?
Alors, l'éditeur, il en dit que M. Druyet est un mec connu à l'époque comme les Bohemius et les Villal, et on n'est plus à l'époque où l'éditeur commande. Si le Druyet, le connard, il veut faire Salambo, ben on le laisse faire. Basta. Alors, par contre, l'éditeur, on devrait dire les éditeurs, parce que ça a démarré aux Humano, période d'orage. Ouais. Je suis pudique dans le terme. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Après, je me tire chez Dargaud. Ça reste chez Dargaud, ça revient chez les Humano, ça repart chez Stock, ça repart chez Albin pendant 10 ans, une merveilleuse maison, Albin, bon, maintenant évanoui, c'était une équipe formidable, et maintenant c'est chez Glénat. J'avais un postulat, moi, en tant qu'artiste et affilié à une maison d'édition, le vieux rêve du 19e, je m'installe dans une maison qui va me chouchouter toute ma vie, mon cul. C'est la baston sans arrêt, ça se barre dans tous les coins. Alors j'ai encore ce rêve d'enfant, maintenant je suis Jacques Glénat, Jacques que je connais depuis les années 67, donc on est amis, je vois qu'ils font du bon boulot pour moi, j'en suis ravi. Au début je me disais, c'est quand même une boîte un peu industrielle, qui a 250 trucs, est-ce que les auteurs sont vraiment, parce qu'on a toujours besoin un peu d'être chouchouté, eh ben, c'est le cas, je suis ravi. Très bien, donc je pense que maintenant Glénat, j'ai 66 ans cette année, c'est ma dernière maison d'édition, parce que là ça suffit. En plus, sans oublier les détails techniques, il y a la moitié des... L'album le plus fou aux Humano, c'était Gall, il y a eu 7 photogravures différentes, à cause des faillites. Donc quand ils ont tous récupéré ça, c'était un bordel pas possible. Et maintenant, nous sommes sauvés par la technique. Quand je suis arrivé chez Albin, Hervé Dezin, je me dis, mon Fifi, j'ai un problème, ton album ira Gall, on n'a pas les films. Alors, c'est 3 ans de boulot, tu as un pan de mur qui s'effondre, tu as la toquante qui passe à 290, et il me dit, mais rassure-toi, on est sauvés. Ben oui, nous sommes sauvés par la technologie, on a tout scanné aujourd'hui, sur des albums le mieux imprimés, alors même si j'ai un blème, donc il y a eu des éditions avec des papiers merdeux, et il y a eu des éditions avec des beaux papiers, que ce soit tous les albums. Maintenant, même s'il y avait un blème, ça sort, le Iragael de chez Albin, il a été scanné, c'est impeccable, je te défie de voir la différence. Donc voilà, donc pour la question de départ, Salambo, pourquoi pas? Jean-Pierre Dionnet, qui est loin d'être un con aujourd'hui comme à l'époque, même si c'était un mauvais gestionnaire, mais c'était surtout un grand rédacteur en chef et un grand bonhomme d'une culture d'intelligence, m'a dit, bah oui, c'est un bon coup, pourquoi pas, tu vois. Ce n'est qu'après que j'ai vu dans quel merdier je m'embarquais. Et après que j'ai compris, et je me suis dit, bah tu l'as voulu, tu l'as, bah non, tu y vas. Et là, j'ai un projet dans 2 ans pour Glénat, m'étant attaqué à un monument comme Flaubert, je dis, bah, n'en restons pas là, on m'a proposé la Bible, bien entendu. Le consistoire juif français et international, merveilleuse commande, m'ont dit, Philippe, on voudrait te commander la Bible. Et on a les moyens. Je dis, attends, là, c'est 10 ans de travail, Gustave Doré l'a fait d'une manière admirable, non, je peux pas. Par contre, donc, je m'attaque dans 2 ans à l'Enfer de Dante. Où je vais mettre en place mon personnage de Sloane, toujours, parce que j'ai besoin, tu vois, de mon pilier, comme tu dis. ça passe pas au... Il faudra mettre les notes à Béné en dessous, et il dresse son poing vers le ciel. Tu vois. Et là, je m'attaque à ça, qui est un bouquin ésotérique, parce qu'il y a la lecture première et la seconde, et puis je veux le transformer, et le transposer à ma manière, dans la modernité. Et ça aussi, moi qui ai tous les livres pratiquement de Gustave Doré, j'ai vu le travail qu'il fait, je ne m'embarque pas là-dedans, je vais le faire à la Druyet. Donc ça aussi, c'est un gros morceau. Je vais en chier d'une manière admirable, mon doigt de mazo. Puis en même temps, escalader les montagnes, c'est notre métier. Sinon, c'est pas la peine, quoi. Donc voilà, donc l'Enfer de Dante, c'est dans 1 an et demi, 2 ans. Ça, je vais le faire. C'est un beau truc. Donc voilà, en gros.
Ça,
voilà.
La Bible par Druyer, j'aurais bien aimé voir.
Ben oui, je sais, mais attends, c'est 10 ans de ta vie, tu deviens fou. Et après, je me suis dit, mais il faut de la documentation. J'avais parlé à Jacques Attali, qui est un copain. Il m'a dit, mais t'arrêtes tes conneries, tu fais comme Salambo, on n'a pas de documents. Tu peux transposer. Attends, mais c'est colossal. C'est colossal. Et c'était sérieux, hein. C'était sérieux.
Ah oui, non, mais je
l'histoire m'a dit, ça, tu es fait pour ça, on a vu les Salambo, tu y vas. Alors, évidemment, ils m'ont dit, bon, et même malgré le. Non, parce que ça, je peux pas. Si vous voulez, mes amis, moi je le dis toujours, je ne suis pas un Moebius, je ne suis pas un Libérator, je ne suis pas un Julliard. Je veux dire par là, Père Moebius qui a un univers fabuleux, on lui commande 13, il fait, parce qu'il a le talent et le métier. Julliard, moi on me demande de faire Black et Mortimer, je prends le pognon, j'en claque la moitié et au bout d'un an je dis je ne fais pas. Et après je suis en procès, je ne sais pas faire. Moi je suis obligé de faire ce que je sais faire. Si je ne suis pas porté, c'est la catastrophe. Je m'effondre. Et là, j'ai un drame sur Delirious 2 qui n'en est pas un. Il me reste 25 planches à faire. On peut parler de Delirious 2,
oui,
même si vous
sûr,
voulez. Ça a commencé en 87 avec Jacques Loeb, qui était vivant. Il meurt en 89. Je fais les 16 premières pages. C'est l'épouvante. Ça dort pendant 10 ans. On refait mon site ici, quelques années après. La personne qui fait le site me dit « Mais c'est génial, ces planches. Tu devrais continuer. » Je réattaque. Je refais une coupe de 10 ou de 15. Je me tape une dépression pendant 2 ans, pour des raisons autres, affectives et tout le bordel. Je replonge. Je suis obligé de foutre la moitié des planches en l'air. Et je redémarre en troisième étape. C'est-à-dire que c'est un album comme un truc cardiaque. Donc je vais faire une préface qui va expliquer ça. Et le problème, je viens à mon discours, je m'écarte toujours, c'est que si je ne fais pas quelque chose où je suis bien, je suis un dessinateur lyrique, je me fous dedans. J'ai demandé à Benjamin Legrand de me faire un scénario à la Jacques Loeb, c'est-à-dire un thriller. Il m'a fait un véritable, magnifique scénario et je me rends compte que je ne sais plus faire et que je ne veux plus faire du découpage de bande dessinée classique, champ contre champ. J'ai une séquence de 3 pages où 2 vaisseaux spatiaux, se poursuivent et moi je ne peux pas. Donc le pauvre Ben, il a écrasé. Je dis voilà, les 25 pages qui restent, tu me fais des épisodes de 10 lignes avec un dialogue de temps en temps et moi je voyage. Et je fais une série de BD illustratives, folles, tordues, délirantes, et je ne veux pas m'emmerder avec les champs contre champs, les personnages et tout le bordel. Il y aura Sloane, je peux plus. Et si je le fais, je fais une merde. Donc, c'est pas possible. Donc, Léna, Jacques, en tiquant un peu, accepté. Benjamin, il est au bord du suicide. Mais je vais le faire comme ça. Je vais le faire comme ça. Sinon, je livre une merde. Donc, je connais maintenant, à l'âge que j'ai, mes capacités. J'ai intérêt à foncer dans mon délire. C'est mon délire qui a plu à mon public, entre guillemets, depuis 40 ans. Si j'essaye de faire quelque chose que je ne sais pas faire, je m'effondre.
Ça ne sert pas à grand-chose.
Ben non, donc voilà. Donc là, j'attaque ça, je commence dans les jours qui viennent. Donc je reprends en troisième phase. C'est pas évident.
La bouilloire.
Oui, la bouilloire est un peu tiédie. Il faut qu'elle remonte sur le gaz.
C'est quoi, vous allez refaire les pages qui complémentaires finalement.
Je vais faire la suite. En respectant le découpage de Benjamin Legrand, en sous forme de petits épisodes, de petits textes de 10-15 lignes, et ensuite, moi, je délire. Je fais de la mise en page à la Druyer, je fais des folies entre Iragaël ou K.O., ce genre de délire.
Alors,
pas de découpage formel, voilà.
Les premières planches, ce seront les planches originales.
Oui, tout à fait, absolument.
Voilà, donc, il va y avoir, en fait,
trois étapes. Et il faut que je le fasse, ne serait-ce que pour la famille, ne serait-ce que pour moi-même, et puis parce que le bon éditeur le veut, il a raison. Donc je vais faire une préface très explicative là-dessus. Il va y avoir forcément des ruptures de style. Il y a des ruptures de style. Et là, à la fin, c'est l'apothéose et je me lâche dans mon délire personnel. Sinon, je ne le fais pas, je ne peux pas le faire.
En même temps, ça sera presque 3 photos de 3 époques.
3 époques, 3 périodes. Douloureuse, Jacques, là, qui est l'homme, qui est là. La photo sera imprimée dans l'album, je vais la mettre. Là, c'est 87, il a le prix en 86. Et là, je fais le fantôme du Bengale, il a un crâne entre les mains, et il meurt 3 ans après, ou 4 ans après. Bonjour la symbolique. Donc ça, il y aura la photo, il y a tout ça, donc je vais expliquer. C'est un album qui ne sera bancal dans la structure, mais qui doit être généreux dans le graphisme. Donc c'est à moi de sauver la mise sur les 25 et de m'arracher la tête, quoi. Donc voilà.
Ça risque de plaire aux fans, hein, quand même. Aux gens qui vous suivent, en tout
cas. J'ai intérêt. J'ai intérêt. C'est parfaitement évident, quoi. Et en même temps, ça m'excite, parce que là, c'est un gros challenge. C'est pas évident. Ben, c'est quand même une évolution d'une histoire. Il l'a fait, le scénario. Et le scénario n'est pas en cause. C'est moi qui suis pas, qui peux pas. Donc c'est vraiment chiant. C'est vraiment chiant.
Et techniquement parlant, enfin, là, c'est en tant qu'illustrateur que je parle. Il y a eu toute l'époque les bleus avec la plume, le rotring, enfin,
ouais.
Le machin.
Eh bien, on y revient.
Voilà, justement.
Avec un peu de Photoshop, c'était déjà le 4KO, bien entendu. Mm-hmm. Quand j'étais chez Albin, on a trafiqué des trucs à l'ordi derrière, des effets spéciaux et tout. Mais je reviens à la technique, parce que d'abord, j'aime ça. Deuxièmement, on peut peut-être me traiter de vénal, mais ce n'est pas le cas, parce que moi, ça fait partie de mon évolution et de mon travail. J'ai des collectionneurs qui veulent de la planche originale, et les collectionneurs, en général, sont ravis d'avoir le mets de mise en couleur à côté. Et donc, j'ai un coloriste, Jean-Paul Martinez, qui fait les photos, qui fait les peintures, les trucs. Moi, je reviens dessus par-dessus. Et après, on aura un petit... Jean-Paul Fernandez, pardon, pas Martinez, il va me tuer. Et on va remettre un petit peu d'effets spéciaux par-ci, par-là, mais à la traditionnelle. D'accord, et j'aime ouais. ça. Parce que moi, la 3D, j'ai ça sur des séries télé, j'ai ça sur des films ou sur des CD-ROM. Donc, ça va, je suis pas... Voilà, moi, je travaille comme ça. Parce qu'en même temps, c'est la pérennité, et aussi, c'est le marché de l'art, c'est la demande. Et puis, merde, j'aime ça, quoi. Mais par contre, parce que là, je vois que je parle à un professionnel, quand j'étais en 87, que Jacques me demande de faire d'attaquer Delirious, à l'époque, je lui dis, attends, l'encre de Chine, je peux plus. Hein, la plume que tu trempes, que tu mets, et là encore, n'arrive pas, tu fais 14 fois le trait, après tu envoies valser la plume dans le truc, tu prends la suivante, parce que moi je suis un nerveux, malgré les apparences, et je ne veux plus. Donc j'ai commencé au crayon à l'époque, et toutes les premières pages, on les a photographiées au crayon fort, ouais. Donc ça passe, et ensuite j'ai eu la période de d'autres albums, et je suis arrivé à KO, et là j'ai retrouvé la technique. Dans KO, il y a pas mal de planche couleur directe, il y en aura peut-être dans Delirious 2, c'est pas impossible, mais je suis revenu à l'encre de Chine maintenant, donc j'ai arrêté cette espèce de... Mais à l'époque j'étais gavé, parce que j'avais fait ça pendant 20 ans, 25 ans avant, parce que c'est un métier de chien. Ça, c'est Dionnet qui m'a appelé l'enlumineur paranoïaque. Et il est merveilleux, Jean-Pierre. Et il avait raison. Et à un moment donné, tu dis, tu gaves. C'est pour ça qu'après, je suis passé à la déco, je suis passé à la peinture, à des tas de trucs. Mais je le dis toujours, moi, je crache pas dans la soupe. Je suis d'abord un auteur de bande dessinée. Je revendique, c'est ma fierté. Et après, j'ai dérapé sur d'autres supports, mobilier, déco, tout ça. Mais là, c'est un retour. Et le Dante, ça sera pareil. Ça sera l'encre de Chine, quoi. Donc voilà, mes amis.
Wow.
Je parle trop. Hein. Mais dans le fond, si je disais rien...
Non, on est là pour.
Il y a un fil, quoi.
Oui, il y a un fil. Parfois un peu confus, mais...
JC est un fan de la première heure, mais pas loin. Quoi, donc,
ouais. T'as quel âge, toi?
J'ai 44 ans.
Ouais. Bah, oui, ça déjà. Oui. Bah, t'as vécu métal. Un peu pilote aussi.
Je devais avoir 13 ans quand je t'ai croisé. Alors vraiment fortuitement.
Farpêtement, comme on dit dans le grec. J'ai le talent.
Chez un particulier dans le 14e, je sais plus, j'étais avec ma frangine, qui était fan aussi. Et t'avais les cheveux là, hyper creusés.
Ah
ça.
Oui,
là,
ton
visage, il m'a marqué.
C'était quelle époque, ça? 76?
Ouais, dans ces années-là.
Ouais, c'est la mort de Nicole.
Oui, exactement.
J'ai passé 2 ans, j'étais un cadavre vivant.
Et voilà quoi, quand j'ai fait mes études d'art graphique, mon prof d'illustration, il m'appelait le petit drouillet parce que.
Oui, très
il m'appelait
bien.
Le pineur de mouche en plein vol.
Ben oui, mais
j'étais
ça,
là avec mes plumes, je
ça se
dit,
transmet, hein. C'est une maladie qui se transmet. Par contre, côté cheveux, j'ai un peu perdu. Oui, ça va. Lui aussi d'ailleurs.
Ça va, c'est bon.
Il faut mettre ça dans l'interview, c'est important.
Par contre, cheveux.
Enfin, en tout cas, vous avez été une source d'inspiration.
On peut se tutoyer.
Hein.
Ben oui, oui. Ben, comme moi, je me suis servi d'autres pour travailler. Hein.
Alors justement, ça vient d'où? C'est une question à la con, mais parce que c'est vachement nouveau. Enfin, dans la BD de l'époque, dans la BD française des années 60, le trait drouillet, enfin les planches en noir et blanc qu'il y a eu dans Mirage et tout, c'était complètement hors norme. Enfin, c'était complètement nouveau. C'est venu d'où? C'est de la littérature,
c'est tout ça, c'est Doré, tout, c'est... mais c'est tout ça. Ouais. Tu as plusieurs, ça je fais un 52 minutes bientôt, on va approfondir tout ça. D'abord, moi je commence à dessiner des cow-boys et des indiens, comme tout le monde, même Bilal l'a fait, on l'a tous fait, et à un moment donné tu as des rencontres, et les rencontres c'est capital dans une vie. Les rencontres c'est des rencontres d'êtres humains, J'ai connu Jean Boulet à une époque qui m'a initié à la peinture du 19e, auprès à Félicto Symboliste. Oui, donc les origines et les gens que tu rencontres, et puis il y a les rencontres littéraires et les rencontres cinématographiques et les rencontres de bande dessinée. Donc t'as, moi je suis autodidacte, fils de concierge sans une thune, je ne peux pas faire d'études ni rien. Et donc j'ai un appétit vorace, je nais dans un milieu sans culture, où il n'y a pas de livres, on n'a pas d'argent. On m'amène, j'ai 12 ans, on m'amène voir Le Tour du Monde de Sadko, qui est un film culte pour Dionnet aussi. Je sors de là complètement ébloui, et je demande d'aller voir deuxième fois le film. On me dit non, le film ça se voit une fois, pas deux fois. Ce qui est normal par rapport à une classe sociale précise. Et après donc j'ai rien, et je suis un boulimique. Donc à 15-16 ans, ben, je découvre Lovecraft, mon élément graphique, alors que c'est un écrivain. Tout mon graphisme vient de là. Je démarre dans ma chambre de 6e à l'époque, après l'éloge de concierge, je me fous une planche de Hogarth sur le mur en photocopie, et parce que Hogarth est le plus mauvais dessinateur du monde, ses anatomies tordues façon les grands américains, notamment le mec qui a dessiné Conan, j'ai des trous de mémoire, on voit bien qui c'est. Et, mais en même temps, il y a une rigueur dans le trait. Je découvre les comics américains. J'achète déjà des bouquins à l'époque qui ne valent rien, mais je découvre Gustave Doré. Donc cinéma, bande dessinée, le cinéma, tout l'expressionnisme allemand, c'est là où Vuse est né. Parce que pourquoi ? C'est comme la bande dessinée, tu n'as pas de son. Donc c'est l'expressionnisme, tu vois, par l'image. Le montage, mais le cadre, oui, la photo. Et l'expression. Donc moi, ça me patafiole, je suis à la Cinémathèque tous les jours. Je tombe sur Stéphane Vull, le plus grand écrivain français de science-fiction. Maintenant, il y a des Serge Lehmann, des mecs comme ça. Il y a une relève en l'écriture en France colossale. Mais moi, à l'époque, c'est un peu le désert. Lovecraft, la science-fiction en général, le cinéma, Planète Interdite, tout le bordel. Tout ça construit un univers. Et après, je démarre. Je fais mon premier bouquin chez Losfeld, qui est mon Tintin au pays des soviets, je dis toujours, qui est très mal foutu, parce qu'il n'y a pas le graphisme, qui ne se déclenche pas encore. Et j'ai un déclic sur des illustrateurs du 19e, genre Arthur Clarke, où je découvre le dessin fouillé, des mecs de 1910, 1920, parce que moi j'étais un chineur, je fouinais, on était, il y avait Dionnet dans le cou, on était des mecs plein de boutons dans la gueule, on nous prenait pour des malades, je veux dire.
Des bords de scène.
Non, mais c'était hallucinant, je jure, tu vois, on allait dans les ciné-clubs et tout, on était vraiment des fondus, des fondus complets, tu vois, c'était, on allait presque habillés en noir avec des cagoules comme des anarchistes au 19e, voire Planète Interdite, dans un ciné-club. Club, comment dire, de Fontenay aux Roses, dans l'Est, et puis ça se terminait avec le débat à 1h du matin, il n'y avait plus de métro, il n'y avait plus de bus. Donc on rentrait à Pinglo, oui, tu vois, et en parlant du film, je m'amène sur une chaise à roulettes maintenant, si je le fais, tu vois. J'ai une voiture maintenant.
Bon. C'est l'avantage de la jeunesse aussi, c'est de pouvoir.
Ce mot est blessant, mais je l'accepte. Tu vois, et tout ça, et en même temps aussi, un mec, un môme, moi j'étais fait pour frotter des pièces de bagnole et être délinquant, parce que j'habitais dans les banlieues, c'était déjà le cauchemar, même s'il y avait moins de violence, il y avait quand même de la violence, il y avait des blousons noirs, ça se tapait sur la gueule partout, et j'avais un appétit de trucs, et donc en même temps, j'étais fourré au musée de l'homme, l'art mexicain, Toltec, Maya, j'étais au musée du Louvre, l'art égyptien. Et puis après, tu te prends dans la gueule Black et Mortimer, la Grande Pyramide, tu deviens égyptologue dans les deux minutes. Pourquoi j'aime Londres, en dehors du fait que je suis un chineur, parce que j'adore la brocante et tout, bah, parce que la marque jaune m'a fait aimer Londres jusqu'à la fin de ma vie. Tintin, quelque part, c'est l'art africain, c'est le casque de scaphandrier, tout le bordel. T'as vu le Raskar Kapak qui est là, c'est un copain sculpteur qui me l'a fait. C'est un cadeau de Benjamin Rothschild, c'est quand même une pièce à tomber. Donc tout ça, et effectivement, ça va de l'école belge, qui pour moi est l'école des Franquins, tout ça, les Tillieux, c'est des génies, c'est des monstres, des machos vénérés. Et on me dit, mais toi quand même, t'es dans la science-fiction, machin, les monstres, pourquoi tu aimes Tintin? Alors je réponds, ça me repose. Tu vois, et c'est clair, et j'aime ça, tu vois. Donc c'est un mélange. C'est quelqu'un assoiffé de culture qui sort d'un milieu où il n'y a rien, et la rencontre avec Jean Boulet, et aussi l'opéra. Je découvre l'opéra en 64, 65, 66, ça doit être ça, même pas, c'est 64, 65. Il y a le Faust de Berlioz, avec Germinal Casado, qui fait tous les costumes, et Maurice Béjart qui fait le ballet d'accompagnement, et je vois des casques avec des cornes et tout le bordel, et moi je vois ça, je suis un fou d'opéra parce que je m'en sers pour travailler. À chaque fois, j'allais, tu vois, chercher le truc. Tout ça, tu mets ça dans une grande marmite. Bon, je suis tombé dedans quand j'étais petit, et après tu construis ton univers. Donc rencontre humaine, rencontre de culture, appétit de connaissance. Et puis comme la plupart des gens de la bande dessinée, moins maintenant, mais pour la plupart, nous sommes tous issus de classes modestes. Tous. Donc c'est ça ou crever. Comme un boxeur,
un pilote, tout ça,
bien sûr, c'est comme un boxeur ou un cycliste. Le mec, il faut qu'il trouve quelque chose. Moi, c'était le dessin, c'était la peinture. Je voulais absolument prouver au monde que j'avais quelque chose à dire, que j'existais et d'être accepté par la société. C'est pas autre chose. Mais il y a un déclic qui se passe vers 16, 17, 18, 19, quand je commence à tomber sur ces illustrateurs du 19e, que je découvre. Et là, je me dis, c'est ça. La voie, elle est là. Et après, Lovecraft, boum, dans la tronche, pour la vie, quoi. J'ai même essayé, dans l'appel de Cthulhu, de refaire les architectures non euclidiennes. Je devenais aveugle, ça ne marchait pas.
Et j'ai essayé aussi.
Voilà, j'ai racheté, cher ami. Vous avez un bon psy, je pense. Moi, c'est mon boulot, le psy. Très bien, j'en ai eu un pendant 2 ans. Et après, tu mets ça en place, et pour moi, le seul qui réussit à développer un peu l'idée Lovecraftienne, c'est Escher, le dessinateur et peintre hollandais, parce qu'il a joué sur l'inversion des optiques. Donc là, ça te blesse l'œil, et on retrouve l'univers de Lovecraft là-dedans, tu vois. Donc voilà, quoi. Et puis après aussi, en plus de tout ça, 14e couche, j'ai lu 30 000 bouquins de science-fiction. Moins maintenant, parce que là, j'en suis gavé, je vais y revenir petit à petit. Moins maintenant, tu vois. Et c'est un puits sans fond de connaissances, de... J'achetais Rayon Fantastique, la revue Fiction, Le Fleuve Noir, Anticipation. Je viens de faire, pour la 4e fois de ma vie, je viens de me refaire faire la collection complète.
Ah ouais.
Je marche. Parce que j'en ai eu des paquets, j'ai eu des problèmes de fric. Mon deuxième métier, c'est camionneur et broc. J'adore conduire. Et donc j'achetais des bouquins, j'étais dans la merde, je les revendais. Tous les libraires de Paris me connaissent comme c'est pas permis. Bon, maintenant ça va un peu mieux. Donc effectivement, je rachète ce que j'ai aimé. Et j'ai des tonnes de bouquins à droite et à gauche, quoi. Donc voilà, tout ça c'est un creuset avec un appétit de survie. Et en plus aussi j'étais, alors bon, est-ce que j'étais intelligent dans ma vie, un petit peu et con comme tout le monde, mais j'avais une prescience, j'ai eu deux presciences importantes dans ma vie, c'est que un, la bande dessinée, je trouvais que c'était pas normal que ça soit réservé dans l'esprit des gens, dans la culture, qu'un truc pour débiles mentaux et pour les enfants. J'ai dit que très tôt que ça serait un art, et j'ai commencé à exposer dans les galeries où j'avais 18 ou 19 ans, déjà. Et ensuite, la deuxième folie, moi, c'est quand j'ai découvert, fin 70, la revue, Science et Vie, la première image de la goutte d'eau en 3D avec le fil de fer, où on m'explique, moi qui suis un passionné de Tex Avery ou de Disney, ce n'est plus, panneau avant, panneau arrière, ou latéral gauche, latéral droit. Tu tournes, et là, je dis, voilà l'avenir du cinéma. Je me suis trompé? Non.
Non.
C'est clair. Et j'ai bossé dans ce domaine à fond la caisse. Et c'était ça. Et la bande dessinée, pour moi, ça ne pouvait être qu'un futur d'intelligence, de travail, de dessin, de génie. On le voit dans toutes les générations, y compris aujourd'hui. Et c'était vraiment ça, c'était vraiment ça. Et je suis tombé dans le piège de Losfeld à l'époque, qui était un piège délicieux, parce que c'est là où j'ai rencontré Jean-Claude Forest et puis notre ami, Guy Bellart. Jean-Claude Forest est le premier précurseur de la bande dessinée. Il savait écrire, il savait dessiner, il savait peindre, il savait sculpter. Et le premier film de bande dessinée français, c'est Barbarella. On lui doit tout. Donc je rencontre ce mec, on est resté copains jusqu'à la fin de ma vie. Mais à un moment donné, moi, je me suis dit, attention, Losfeld est en train de lancer la bande dessinée moderne dans un ghetto culturel, des bouquins à, je sais pas, l'équivalent de 150 balles ou 200 balles de l'époque, des tirages de 4000 ou de 5000, c'est pas ça. On doit faire du génie, de la folie et de la beauté dans un système populaire. Et c'est l'arrivée de Pilote, et après Métal Hurlant et tout le reste. Je me suis pas trompé, j'étais un teigneux. Tu vois, je savais, je me battais pour ça. Et on ne s'est pas gouré, on ne s'est pas trompé. Ça, je ne l'ai pas fait tout seul, on a été plusieurs à le faire. Et maintenant, vous voyez, c'est formidable. Les expos, les salles des ventes, les galeries, les grandes expos, les rétrospectives, la télé, la radio, France Inter, il y a la rubrique cinéma, littérature et bande dessinée. Nous y sommes. Mais simplement, on s'est battu pendant 40 ans pour ça. Mais il faut faire attention, parce que maintenant aussi, il y a un autre problème qui arrive dans tous les milieux. Il y a des collectionneurs qui arrivent, des fans de bande dessinée, et moi j'ai toujours eu aussi des collectionneurs d'art contemporain. Ça, c'est un privilège que j'ai eu très très tôt. Le fric commence à arriver. Et quand le pognon commence à arriver, la merde suit immédiatement, ouais. Traîne au-dessus du fric. Ouais, c'est clair. Donc là, il y a déjà maintenant, il y a des trucs fous. Bon, Tintin fait 700 000 euros, le dernier Franquin, et c'est mérité, ce sont nos maîtres qui ont ouvert la route, 270 000 euros. Génial. Moi, j'ai fait deux cartons à 90 000 la planche l'année dernière avec l'Île des Morts. Je vous rassure, ce n'est pas tous les jours que je prends une planche 90 000 euros. Parce que là, j'ai installé au Bahamas avec des nanas, des grenouillons. Donc, mais c'est important. Et il commence à y avoir... bon, il y a de plus en plus de galeries qui s'ouvrent et c'est vachement bien. Mais le fric, on sent que ça... Faut gérer. Ouais, ouais. Parce qu'on est quand même des enfants, entre guillemets. C'est normal qu'on nous respecte, parce que si un Jeb Koons ou un Damien Hirst vaut 30 millions de dollars, pourquoi pas nous ? Mais simplement, il faut le faire avec intelligence et calme, tu vois. Donc, voilà, quoi. Mais c'est 40 ans d'histoire. C'était, je ne sais plus quel dessinateur que j'ai torché gentiment, et qui était au Louvre, et qui disait « Ah, bah, ça y est, on s'est battu pendant 4 ans. » Je dis « Du con, tu rajoutes un zéro, s'il te plaît. » Parce qu'il ne faut pas qu'ils oublient. Et aujourd'hui, on a une bande dessinée, mais qui... Aujourd'hui, c'est plus des écrivains graphistes. Hein. Les Riyad Satouf, les Blin, les Sfar, les Ferry, les Blotch. Blotch, c'est un peintre. Blotch, c'est un peintre, c'est un graphiste. C'est... Moi, j'ai acheté du Blotch au bon moment. Parce que là, maintenant, boum, et parce que je suis collectionneur aussi, bien sûr. Et c'est merveilleux, tu vois. Donc, c'est un métier où toutes les générations qui s'additionnent, c'est un vrai talent, quoi, la bande dessinée. Et maintenant, quand même, les gens s'en rendent compte. La carrière d'un Bilal, bah, je suis désolé, c'est quand même pas de la bidouille. C'est quand même pas mal, tu vois. Donc, voilà, quoi.
En fait, tous ces gens-là, c'est les années 60 qu'on déclenché ça. Enfin, la fin des années 60.
70.
Parce que l'équipe de pilotes, les humanos et tout ça, c'est... Enfin, c'était pas 2000 personnes, non?
Non. Quoique, quand même.
Groupe assez
oui,
restreint, enfin,
oui, mais pilote, c'était un hebdo, merci, on sait, mais dans lequel il y avait du western, du policier, de la science-fiction, de l'humour, de l'aventure, il y avait tout. Et dans chaque secteur, du top,
oui,
tu
oui,
vois.
Bah oui.
Et ça, c'était le rêve de Goscinny, tu vois. Et il y a eu un autre journal, Chouchou, ça c'est un interview qui était sorti dans les années 60, fait par Philippe Aki et toute la bande. Il y avait Chouchou, le personnage principal. Et c'était pas encore ça. C'était... Et Goscinny avait la trouille de ça. Parce qu'il avait déjà son idée. Moi, je l'avais vu en 64. Je le raconte souvent. Et il m'a dit, oula, il a vu les trucs. Il m'a dit, bon, je ne suis pas prêt, mais dans quelques années, je ferai une formule de journal qui acceptera ce genre de choses. Et 5 ans, 6 ans après, ben, j'y vais. Et je démarre en 69, tu vois. Et j'avais la trouille. Hein. Parce que Goscinny savait, j'ai toujours dit, je reconnais la qualité de votre boulot, bien que je ne le comprenne pas. Mais ça, c'est le talent d'un rédacteur en chef. Et tout ça. Mais la première histoire, on l'attendait. J'en avais déjà 3 derrière. Parce que moi, t'imagines. Et là, je me suis dit, si j'ai pas de réaction là-dessus, je suis foutu. Et ma théorie était, je ne peux pas être le seul à penser ce que je pense. Il y a une génération. Dans le rock et la pop, on l'a prouvé, et dans la bande dessinée. Et quand le trône du Don Noir sort, c'était centaines, il n'y avait pas de mail à l'époque, c'était centaines de lettres qui tombent à la rédaction, et le père Drouillet qui... De plus en plus, tu vois. Et après, René me dit, bon, ben maintenant, oui, ben très bien, d'accord, ben maintenant, vous y allez, porte ouverte. Donc voilà, quoi. Si ça n'avait pas marché, je ne sais pas ce que je serais devenu dingue. Hein, tu vois. Parce que pour moi, c'est une thérapie, mon boulot aussi. C'est vraiment une thérapie. Ça me calme.
Ça me calme.
Voilà. Donc pour revenir à Flaubert, à Salambeau les Nus, ça va être une belle expo. La galerie est sympa. Il y aura des bronzes aussi. Il y aura les fameux bijoux. Bon, des expos, j'en fais tous les 3 ans, hein, même plus que ça. Mais là, c'est une expo importante. C'est vraiment bien. On a déjà beaucoup vendu, d'ailleurs. Et bah, tu as des trucs ici, hein, c'est ouais, ça. Tu vois, ça, c'est les originaux. Hein.
Et les bijoux, ce sont des bijoux
c'est sur mon site,
destinés
hein.
à être...
C'est vendu, ce sont des pièces uniques.
Ah, c'est
uniques. C'est 8 plus 4, mais plusieurs modèles, avec des matériaux et des couleurs différentes. De l'or blanc, de l'or jaune, de la pâte de verre et du titane, et c'est très très beau. Bracelets, boucles d'oreilles, bagues, je fais beaucoup de choses. Ça sera exposé. Ça a mis du temps. Là aussi, c'est un autre domaine, parce que j'ouvre sur plein de choses, et j'ai pris un agent pour voir les plus grands joailliers de Paris. Et j'ai eu du respect. Ils m'ont tous foutu dehors, mais avec respect, en disant, non, c'est pas notre clientèle. Et quand tu vois le monde de la bijouterie aujourd'hui, en design, c'est catastrophique. Il n'y a qu'une addition de matériaux précieux. Donc on t'en vend pour 20 000 dollars, 30 000 dollars, 5 000 dollars, 50 000 dollars, et il n'y a plus les leleux ou le plus célèbre de Paris, en dehors de Dôme et de Galais, le fameux Lalique, merci. 3 secondes et demie, ça va encore. Donc l'expo va être sympa, donc 40 pièces, toutes plus ou moins au même format, et donc acrylique sur papier, avec technique mixte, c'est-à-dire encre de Chine, en rajout, pastel et crayon de couleur, tu vois, technique mixte, tu vois, un ensemble de choses. Et avec des gros nichons.
Les vaporisateurs.
Ça, c'est de la projection, c'est un instrument de travail qui est très valorisé, qui est très très rare, qui s'appelle la brosse à dents. Donc je travaille avec les brosses à dents. J'ai eu une période, comme tout le monde dans les années 80, quand il y a eu un mouvement général qui venait de l'Angleterre et des États-Unis, nous avons tous eu cette période aérographe. Oui. C'est une saloperie abjecte. Il faut être gynécologue pour travailler avec un aérographe. Tu es en train de finir dans la nuit à 3h du matin, tu livres le lendemain, ton aérographe se bouge, tu as un gros pâté sur le truc, il faut que tu désosses tout, il est déjà 5h, tu dis je livre elle sur le lendemain. C'est une horreur.
Enfin,
donc j'ai fait comme tout le monde, la frisquette. Et moi je marchais plutôt au drawing, c'est gras mais je rattrapais derrière.
Oui.
Et je tourne toujours au drawing, je m'en fous parce que je connais la matière. Aérographe, on s'est tous débarrassés de ça, mais heureusement. Problème dans la bande dessinée actuelle, chez les éditeurs, ceux qui n'ont pas trop de sous, maintenant on fait beaucoup de couleurs en Photoshop. Quand tu as du pognon, tu fais du vrai travail. Quand tu n'en as pas, ça ressemble à de l'aéro. C'est de l'aéro. Aéro électronique, numérique, on arrive. Et c'est plat, c'est moche, il n'y a rien. Quoi. C'est le problème.
Les autres projets après Delirious ?
Alors, il y a une rétrospective en 2011 importante de la collection Rothschild et de la collection Michel-Édouard Leclerc, plus d'autres collectionneurs. Gros machin. Où il va y avoir du mobilier, de la sculpture, tout. Ça sent le sapin, mais bon, c'est important. C'est très bien, ça pose un homme, entre guillemets. Ensuite, j'ai donc j'ai un bouquin sur tous les travaux Rothschild qui va sortir l'année prochaine. J'ai le Delirious 2, je l'ai dit. J'ai le Dante. Je suis sur un projet de film qui traîne depuis 2 ans d'opéra en images de synthèse Aïda. On est dessus. C'est très dur à inventer en ce moment. Très dur. Et puis un tas de conneries et des sculptures, beaucoup de sculptures, une nouvelle collection de mobilier. Bon voilà, je navigue un peu, et de la toile. J'ai de plus en plus de demandes en peinture. Là, c'est pas ça, c'est une base, mais je fais une série de Nosferatu Dracula. J'en ai fait un qui a été vendu à Bruxelles il y a 6 mois. Et donc voilà, donc j'ouvre au maximum, comme je peux, selon les commandes et tout ça. Je n'ai pas à me plaindre, je suis pas riche non plus. Et je dépense plus que je ne gagne, donc ça c'est une autre affaire. Mais donc voilà, quoi. Donc par contre, effectivement, c'est une réflexion que je n'avais jamais, mais en vérité j'en parle, mais je ne l'ai pas. C'est Moebius qui me disait ça il n'y a pas longtemps, et j'avais entendu une interview de lui, où il disait, parce qu'il a 73 ou 74, je crois, le père Jean, et il disait quand même, le temps commence à se comptabiliser. Et ça c'est très énervant pour tout le monde, et aussi pour un artiste. Bon, si t'es un légume, tu t'en fous, c'est pas le problème. Et quoique, les légumes parfois sont. Moi, j'irai pas. Je suis un peu fascisant comme réflexion. Et c'est pas mon genre. Mais c'est vrai que je me rends compte. Là, je suis sur un décor de théâtre. Là, actuellement, là, j'ai livré avec Checky Cario. Ça va. Ça démarre à Naples. Et après, ça vient en France. Sur un monologue d'un monsieur qui a écrit Les Derniers Jours d'Alexandre le Grand. Tu vois. Et c'est un délire total, sauf qu'on a très peu de fric, donc j'ai fait un truc très minimaliste et très graphique. Tu vois, à la fois, je navigue maintenant entre le salon beau, et puis tout d'un coup, on me demande de dessiner un verre le plus sobre, et je suis arrivé. Ça, c'est la mémoire, et c'est le temps. Tu vois. Donc, petite pièce de théâtre, monologue et Checky Cario, très sympa. C'est Michel Didim qui fait la mise en scène. Et on démarre le 10 à Naples, et après ça vient à Nancy, à Paris sûrement. Quoi. Donc voilà, donc il y a plein de trucs dans le domaine. Quoi. Le vieux plaît encore.
L'agenda est complet. Quoi.
oui, enfin bon, faut pas passer sous un camion, tu vois, ou choper une saloperie, tu vois. Mais enfin oui, donc voilà, tu vois. Puis mes peintures, j'y reviens beaucoup parce que j'aime ça, quoi. Et puis en même temps, ben moi je vis, hein, je fais le con, je picole, je sors, donc. Mes journées ne sont pas, bon en ce moment c'est la promo et c'est sympa et c'est du boulot, mais mes journées ne sont pas non plus, il est vrai qu'un Tardi, et ça je dis ça avec tellement de déférence, ou un Moebius, eux sinon pas, si tu veux ça bosse tout le temps, ils bossent tout le temps, moi j'aime bien faire la fête, j'aime bien être avec mes potes.
Et alors le fait que ce soit en filigrane un petit peu comme ça dans votre carrière, c'est à la fois ça tient de l'obsession ou alors du plaisir de retrouver des personnages ou... le roman au fur et à mesure, je pense que c'est ça l'embauche.
Si j'avais été malhonnête, j'aurais pu dire la chose suivante. Je fais une série de nus parce que j'ai envie de faire des nus. Puis après, comment valoriser ça d'une façon putassière? Bon, bah tiens, je vais dire que c'est Flaubert et basta. Première hypothèse. C'est pas la bonne, parce que je l'ai développé tout à l'heure. Donc, fidélisation, ancrage, continuité, et c'est ça qui m'intéresse.
Parce que pour bosser avec des écrivains, parfois qui ont des séries comme ça en cours, c'est pour certains, je connais bien la science-fiction, c'est à la fois parfois presque un poids, une espèce d'obsession comme ça qui les pousse, et en même temps, une espèce de plaisir.
On est masochiste, il y a un peu de ça, mais moi je peux pas, je l'ai défini tout à l'heure, si je ne fais pas ce que j'aime et ce qui me passionne, je fais de la merde. Donc je suis incapable. La vérité, bon, on a tous nos défauts, on est tous un peu foutus, mais moi je dois dire que dans mon boulot, j'ai prouvé que j'ai jamais menti. Je me suis toujours engagé. Les planches de la nuit, ça a été au prix du sang. Je me suis toujours mouillé dans mon boulot d'une façon profonde. Il m'est arrivé, comme tout le monde, de faire des merdes pour une commande où on n'est pas en forme, où on a besoin de thunes, et on fait. Attends, on n'est pas des dieux, hein, tu connais.
Oui.
Ça va, c'est clair. Ça, c'est vrai. Mais pour l'instant, j'ai quand même la chance, si tu veux un résumé de ma petite carrière à la con, je fais quand même un boulot de malade mental, de cinglé, de déjanté complet, et j'ai trouvé des gens qui me suivaient. J'aurais pu aussi ne jamais y arriver. Et moi, ma théorie, c'est qu'un artiste doit s'installer dans le monde dans lequel il est. Je ne crois pas à l'artiste maudit. Le seul exemple d'un artiste maudit, il y en a peut-être eu deux, c'est le Caravage, et il y a l'autre, c'est le Van Gogh et le Gauguin. Van Gogh était un asocial, un malade mental, un pauvre gars qui avait du génie, mais qui ne savait pas s'inscrire dans la société. S'inscrire dans la société, ça ne veut pas dire prostitution. Mmh. Ça veut dire être en accord avec une pensée et être témoin de son temps. C'est un terme pompeux qu'on donne dans les galeries. Témoin de son temps. Donc moi, j'ai eu de la chance de trouver une écoute. Ouais. Si je ne l'avais pas trouvée, mais en dehors de ça, pour répondre encore à ta question, pour moi, c'est un véritable engagement. Moi, je me fous mes couilles sur la table. Ça, c'est clair. Toujours. Je crois à ce que je fais et je suis extrêmement imprégné de mon truc. C'est pour ça que j'ai l'honnêteté de dire je ne peux plus faire de découpage aujourd'hui, j'en suis incapable. Et si je ne suis pas bien dans mes baskets, c'est foutu. Donc à la fois, je suis très ouvert. Quand j'ai fait du mobilier, j'ai rencontré des ébénistes et tout le bordel. Maintenant, je le dis toujours, j'ai une palette d'huile, j'ai une palette d'acrylique et j'ai une palette de bois précieux. Et je m'en sers comme une palette.
Ouais.
J'ai découvert ça. Je savais que je pouvais le faire, je l'ai fait en équipe, mais je me suis engagé là-dedans. Mais une commande de supermarché, je ne pourrais pas. Une décoration peut-être. La déco, j'ai appris. Maintenant, j'ai appris ça aussi. Donc, il y a tout un tas de déclinaisons. Et même par rapport à l'amour profond que je porte à la bande dessinée, ben je suis un blême pour les auteurs, pour les lecteurs et pour un éditeur. Il faudrait que je fasse un album tous les 3 ans. Non, si je pars sur une aventure cinéma ou de décoration, ben c'est ça qui m'intéresse parce que ça me nourrit. Et ça m'amène après la bande dessinée, pour la bande dessinée, à d'autres choses. Donc j'ai une forme profonde d'honnêteté dans mon boulot. Mais moi, je suis pas à l'heure des bilans, c'est pas vrai, mais j'analyse parce que c'est passionnant au niveau de l'histoire et je vois le chemin parcouru par un nombre d'auteurs de bandes dessinées. C'est quand même un chemin prodigieux et c'est pas un chemin, il n'a pas été pavé de roses, hein. C'était que des épines, ça a été une véritable violence. Le nombre de fois où je me suis fait insulter, engueuler, traiter de minable, de dessinateur pour débile, on était considérés comme des trous du cul et on s'est battu pour ça, on s'est battu. Puis il y a aussi, dernier point, dans le monde d'art contemporain, il y a beaucoup d'errance. Alors les gens commencent à se dire, mais quand tu vas acheter 1,2 million d'euros une boîte à pharmacie de Damien Hirst, bon, ben on sait que c'est dans un milieu précis où les mecs s'amusent entre eux, c'est l'art fric, mais les gens commencent à en avoir marre. Ils ont envie d'avoir un dessin qui tient debout, ils ont envie d'avoir une belle peinture, ça fait partie de l'âme humaine. Donc là, on arrive, nous, et les professionnels disent, il y a une niche de la bande dessinée actuellement dans le marché de l'art. Voilà.
Ouais.
Donc on est une niche. Une niche, c'est formidable. Donc voilà, mes chéris, les aventures.
Génial.
Il y a la cloche qui sonne.
Ouais, on a passé un super moment.